France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec l'historien Johan Chapoutot ce soir. Historien, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne et notamment de l'Allemagne nazie. Il publie Le Grand Récit, introduction à l'histoire de notre temps aux presses universitaires de France. Un livre qui tombe à pic au moment où certains cherchent dans l'histoire un sens à leur action, au moment où d'autres tentent de la réécrire également. Emmanuel Macron leur a répondu cette semaine.
Quand les vents mauvais reviennent, ne rien concéder ni au racisme, ni à l'antisémitisme, ni à la remise en cause de nos valeurs, ni à la manipulation de notre histoire.
Pourquoi chercher à réécrire l'histoire? Est-ce pour chercher dans l'histoire des raisons d'espérer? C'est précisément la question qui taraude notre invité, persuadé que nous sommes en manque de récits et que cela ouvre la porte à toutes les dérives. Complotisme, illimitisme, mais aussi bullshitisme. On verra tout cela avec lui. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine avec le casting de la présidentielle qui se précise ici en France. Et la fin d'une époque en Allemagne avec le départ d'Angela Merkel. À 19h, le journal de Frédéric Barrère. À 19h20, le téléphone sonne. Télétravail, série, livraison à domicile. Sommes-nous tous devenus casaniers? On en parlera à l'occasion de la sortie d'une étude du Crédoc sur le vendredi soir idéal. Alors n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est pour vous. 01 45 24 7000 d'avance. Merci à nos standardistes, à Clémentine Ducasse pour la page web, ainsi qu'à Philippe Duclos, Fabrice Desmaz, Benjamin Troncin et Ronan Mahé qui sont en régie.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue, Johan Chapoutot.
Bonsoir, Claire Servageant.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Vous publiez donc aux presses universitaires de France Le Grand Récit, introduction à l'histoire de notre temps. C'est un ouvrage imposant qui vient nous rappeler que l'histoire, ce ne sont pas que des dates, des événements, mais des récits qui nous servent de boussole et que quand il n'y a plus de repères, eh bien on a tendance à en fabriquer au risque de faire et de dire n'importe quoi. C'est grossièrement résumé, mais c'est un petit peu ça, l'idée?
C'est certain que les historiens... Étudie les récits que se donnent les acteurs d'une époque pour donner sens à leur vie et donner sens à leur temps. C'est ce que l'on fait chacun à titre individuel, hein, dans notre propre vie, pour exister dans le monde et se tenir dans l'existence. Et c'est ce que font également les groupes à l'échelle des partis, des syndicats, à l'échelle des nations. Et c'est en comprenant ces récits-là, qui animent les acteurs de l'histoire, que l'on arrive à comprendre les coordonnées mentales d'une époque et à retracer l'histoire de cette époque.
Ce livre s'ouvre sur ce que vous appelez l'épuisement du providentialisme, autrement dit le déclin de l'Église. Alors pourquoi évoquer cette question d'entrée de jeu? Parce que très longtemps, ce sont les croyances divines qui ont donné du sens peut-être à l'histoire.
Oh, il y a eu une souveraineté d'interprétation pendant 1500 ans en Occident, hein, qui a été celle des clercs, celle de ceux qui savaient lire et écrire, qui étaient précisément les gens d'Église, et qui ont, à partir du message de la Bible, l'Ancien et puis surtout le Nouveau Testament, donné une lecture de l'histoire qui était censée être voulue par Dieu et décidée par Dieu. C'est ce qu'on appelle le providentialisme, hein, c'est la providence qui explique tout. Et ça, c'est un récit qui entre en crise assez tôt, hein, disons à la Renaissance, avec la Réforme, mais qui est définitivement discrédité et abandonné entre le 19e siècle, celui de l'alphabétisation et du scientisme, et la Première Guerre mondiale. Et après cela, plus aucune grande religion du livre ne défend l'idée d'un Dieu souverain de l'histoire.
D'ailleurs, on a bien vu cette semaine à quel point l'Église catholique a perdu de son influence. Le pape est allé à Lesbos parler des migrants, et c'est vrai que pas grand monde ne s'en préoccupe.
Oui, alors.
N'écoute cette parole-là.
Surtout que le pape actuel a un discours qui est un petit peu orthogonal à ce que certains conservateurs catholiques veulent entendre. Donc il est effectivement à contre-courant à la fois de la société, puisqu'il y a une désaffection du religieux qui est massive, hein, depuis la fin du 19e siècle. Et puis par ailleurs, il est également à contre-courant de, on va dire, sa clientèle traditionnelle qui est un petit peu prise au dépourvu par rapport au message humaniste, universaliste qu'il promeut, qui est censé pourtant être celui du Christ, hein, il me semble, mais bon.
Alors, dans ce livre, évidemment, il est question de la guerre, la grande affaire du XXe siècle, c'est ce que vous dites, notamment la première qui devait être la der des der. Beaucoup d'historiens se sont penchés là-dessus, mais vous continuez à vous demander, notamment à vous interroger sur le cas de l'Allemagne, qui est votre spécialité. Pourquoi ce pays a pu sombrer à ce point-là?
Ouh là là, ça c'est une vaste question et il faut plusieurs livres pour y répondre, mais disons que il y a eu des mutations massives en Allemagne avant 1914, une mutation d'ordre démographique, industriel, qui ont conduit à une projection de la puissance hors des frontières de l'Allemagne. Ça s'est soldé par une catastrophe, qui est une défaite et une mort de masse, 2 500 000 morts si on compte les civils pendant la Grande Guerre, et un deuil de masse, un deuil de la mort de masse, auquel, hélas, le nazisme est venu répondre, puisque l'Allemagne était aussi un pays qui était le théâtre d'une désaffection du religieux, et donc d'une désaffection, on va dire, pour aller vite, du sens de la vie.
Et d'une victime d'un complexe d'infériorité intellectuelle et culturelle aussi, vous dites, l'Allemagne depuis la Renaissance, face aux Italiens et aux Français.
Oui, ça c'est une... Et même aux Autrichiens, à vrai dire. Tout ce qui vient du Sud et de l'Ouest, tout ce qui est catholique au fond, c'est assez intéressant de le voir depuis la Réforme, il y a une espèce de complexe intériorisé, le germain des forêts étant censé être plus fruste, plus brut que le latin civilisé. Et ça, c'est quelque chose qui est très net. Et là aussi, les nazis sont venus y répondre à leur manière, en essayant d'une part de rivaliser avec leur grand rival synchronique, on va dire géographique, qui était les États-Unis d'Amérique à l'époque, et en essayant d'être à la hauteur de leur modèle qui était la Rome antique.
Voilà, à laquelle vous êtes très longtemps intéressé, Johann Chapoutot, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais la grande question que vous posez, c'est à quoi peut-on croire après ces deux guerres? Après le nazisme, le fascisme, le communisme, à quoi peut-on croire?
Disons que la désaffection du religieux a laissé une béance de sens, qui a laissé la place à ce que Raymond Aron a appelé très justement des religions séculaires, c'est-à-dire des doctrines politiques qui prennent en charge des aspects de la vie, des aspects du questionnement que l'on se pose, qui auparavant n'étaient pas pris en charge ni en compte par les doctrines politiques. Très brièvement, la question de la provenance, la question de la destination, la question du sens de la vie, etc. Ça, c'est des choses que l'on trouve chez les fascistes, les nazis et les staliniens. Alors le fascisme et le nazisme sont désavoués par l'histoire, par l'ordalie d'histoire, pourrait-on dire, avec la défaite de 1945, et s'il en subsiste, eh bien il en subsiste de manière souterraine, on va dire. Par contre, il y en a un qui demeure, qui est vainqueur de la guerre, qui est le stalinisme, qui lui a eu une carrière qui s'est prolongée jusqu'aux années 1970, jusqu'à cet épuisement final avec, d'une part, l'échec, on va dire, économico-social de l'URSS, d'une part, et d'autre part, les révélations à n'en plus finir sur l'archipel du Goulag.
Tout ça s'effondre, les constructions s'effondrent les unes après les autres. La construction européenne aurait pu être un horizon.
Oui, et de fait, elle est toujours censée l'être. Elle manque
peut-être. Ça se porte pas toujours très bien, mais.
Elle manque peut-être d'affect, elle manque peut-être d'incarnation, elle manque peut-être également d'imaginaire et de désir. Elle apparaît, hélas, comme quelque chose de trop juridique, technique, technocratique, et assez peu incarné et assez peu propre à donner sens aux différents destins politiques. Alors que un de ses acquis, c'est quand même la paix, c'est quand même la libre circulation. Alors, un petit peu entravée depuis 2 ans, comme nous le savons, par les restrictions sanitaires, mais ce sont des acquis qui étaient absolument inimaginables avant 1945.
Mais en même temps, il y a ce néolibéralisme, la loi du marché, qui fait que certains se détournent et vont chercher autre chose. Et c'est là que vous dites qu'on voit refleurir le complotisme, le conspirationnisme. On cherche autre chose.
Le complotisme, c'est intéressant parce que c'est une manière, sans doute, de faire du religieux en congédiant Dieu, mais en gardant le diable, en gardant une forme de force obscure qui est censée tout expliquer au chaos que nous vivons. C'est une réduction de la complexité du monde à la simplicité d'un facteur monocausal. C'est telle ou telle force qui est censée être responsable des malheurs du monde. Et de fait, c'est quelque chose de très puissant, à la fois intellectuellement et psychologiquement, mais aussi socialement, puisque avec le phénomène des bulles cognitives liées aux algorithmes des réseaux sociaux, il y a des communautés de sens comme ça qui se créent et qui se tiennent chaud ensemble. Et c'est une des vertus, au fond, de ces discours-là.
Parce qu'évidemment, le web est passé par là et que ça a tout changé. Il y a ce que vous appelez les ismes du contemporain. Alors ça, vous citez l'illimitisme et vous citez Jeff Bezos et Elon Musk. Dites-nous pourquoi.
Disons que le discours du progrès, qui est très puissant hein, en Occident depuis le XVIIIe siècle, cette idée selon laquelle le vecteur du temps est un vecteur d'accumulation, d'accroissement, de bien-être, de biens, etc., est remis en cause hein, depuis les années 1970, d'une part par la récession latente qui frappe les pays industrialisés, et d'autre part par l'entrée en crise de la civilisation thermo-industrielle que nous connaissons, puisque nous voyons que le développement de l'industrie, de la circulation des biens des personnes aboutit à une dégradation, voire une destruction de l'environnement, une destruction du vivant. Donc ça, le récit du progrès est remis en cause violemment. Et une des manières de le sauver, c'est de considérer que, au fond, tout est limité, sauf peut-être l'intellect humain, donc l'innovation. Et dès lors, on essaie de sauver le récit du progrès par une forme d'illimitisme qui est bien métaphorisée, si vous voulez, par ces images que l'on voit de temps en temps, hein, de milliardaires qui littéralement s'envoient en l'air, hein, en partant dans l'espace, dans des fusées dont le dessin est parfois assez évocateur, assez curieux. C'est une absurdité sans nom d'un point de vue écologique, avec un bilan carbone au-delà du désastreux. C'est par ailleurs une manière d'entretenir ce récit sur lequel on pourrait tout à fait détruire une planète, c'est-à-dire la seule qui soit habitable pour le vivant à des millions d'années-lumière aux alentours, pour aller coloniser une planète qui est absolument invivable, en l'occurrence Mars. Et là, pour le coup, c'est une illusion assez dangereuse qui vient alimenter un déni de la catastrophe géoclimatique.
Et l'ignorantisme ?
L'ignorantisme, là, pour le coup, ça, c'est un mode de gouvernement qu'on a bien vu, qu'on voit hein, au Brésil actuellement avec Bolsonaro, que l'on a vu au Brésil, que l'on peut voir également très lié à ces populismes d'extrême droite en Pologne et en Hongrie, qui consiste à utiliser d'une part les ressources depuis 2005 du web 2.0, hein, de la diffusion de masse des informations et des fausses informations, et à compter sur le fait que la plus grande partie de la population serait en quête de réflexe et non de réflexion, serait en quête d'émotion et non d'intelligence, et donc à nourrir cela pour se maintenir au pouvoir. Le paradigme, ça a été Trump pendant 4 ans, mais on a vu autre chose hein, auparavant.
Et c'est là que vous dites, on pourrait même appeler ça le bullshitisme.
Alors ça, c'est un philosophe américain qui s'appelle Harry Frankfurt, hein, qui a appelé ça le bullshit, c'est-à-dire une forme de discours qui est au-delà de l'alternative vérité-mensonge, parce que au fond, le menteur sait qu'il ment et accrédite la vérité l'existence de la vérité et sa dignité. Le bullshitter, lui, l'agitateur pulsionnel, le locuteur impulsif qui raconte ce qui lui passe par la tête à un certain moment, parfois même au détriment de son propre intérêt politique. On l'a vu avec Trump qui s'est royalement vautré à cause de son impulsivité et de son absence totale d'intelligence politique. C'est un autre régime de discours, mais qui en France avait déjà été illustré par des gens comme Berlusconi ou Sarkozy, par exemple.
Et puis il y a le déclinisme.
Alors ça, le déclinisme, c'est une spécialité française.
On va en parler parce que ça nous amène à l'actualité de la semaine. On écoute à présent ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. La une, la pandémie qui n'en finit pas, et la présidentielle pour laquelle les choses se précisent.
Éric Ciotti, 39%, et Valérie, 60,95.
La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions.
Ce sera donc elle, Valérie Pécresse, qui mènera la campagne de la droite pour la présidentielle.
C'est triste pour les électeurs LR.
Tiens, voilà que Marine Le Pen se préoccupe des électeurs LR maintenant.
Parce qu'ils ont exprimé leur souhait, justement, de sortir de ce côté Macron compatible.
Elle se rappelle surtout au bon souvenir des partisans d'Éric Ciotti.
Ils ont toujours la possibilité, bien entendu, de venir participer à ma campagne.
Il faut dire que cette année, la concurrence sera rude.
Nous voulons sauver notre patrie.
Premier meeting de campagne pour Éric Zemmour.
Sauver notre civilisation, sauver notre culture, sauver notre littérature.
Vaste programme.
Sauver notre peuple.
Un meeting émaillé d'incidents.
C'est frappé. On a l'habitude de faire des actions pacifiques, mais c'est une des rares fois où on a eu autant de violence.
Les militants de SOS Racisme l'ont bien cherché, dit en substance ce responsable du meeting.
Quand on est en désaccord, on vient pas là.
Et la gauche dans tout ça ?
Il faut organiser une primaire de cette gauche.
Ça bouge, enfin. On était tous dans le formol.
Arnaud Montebourg n'attendait que ça.
Je me réjouis de l'initiative prise par Anne Hidalgo à la suite de mon appel.
Enfin, certains y avaient déjà pensé.
Moi, j'ai rassemblé toute la gauche et les écologistes au printemps.
Avec le succès que l'on sait.
Les écologistes ont fait une primaire.
Alors aujourd'hui, c'est trop tard.
Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection, c'est dans 4 mois et demi.
Casting presque complet à 4 mois du premier tour. Enfin, pas tout à fait.
Alors, bon, dans tout ça, il nous en manque un, c'est Monsieur Macron, qui lui... fait le gars qui n'est pas candidat pour pouvoir abuser plus longtemps de la fonction.
Emmanuel Macron en déplacement dans le Cher et dans l'Allier cette semaine, interpellé à Vierzon sur les vrais sujets du moment.
Un bureau de poste qui a fermé, on a un hôpital qui est en souffrance.
Vous savez, c'est pour ça qu'on se bat.
Ben je sais bien, mais il faut aller encore plus vite, plus fort et puis sortir le carnet de chèques surtout.
Partout, l'hôpital a la peine face à la 5e vague de Covid.
Il y a désormais un malade qui rentre en réanimation toutes les 6 minutes dans notre pays.
Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on se protège.
Dose de rappel et geste barrière, dit Jean Castex, mais gare à la bamboche.
C'est la seule exception que nous ferons. Nous fermerons les discothèques pendant les 4 prochaines semaines.
Je suis dégoûté. Ah, j'ai les larmes qui viennent. C'est une catastrophe. Ils ne parlent que des discothèques.
Dur pour les patrons de discothèques. Les plus jeunes, eux, ont mis les bouchées doubles cette semaine.
Jusqu'à vendredi, essayer d'aller le plus possible en boîte, quoi. Jusqu'à ce que ça ferme, parce qu'ils disent un mois, mais on les connaît, hein.
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France, en compagnie de l'historien Johan Chapoutot, qui publie le grand récit aux presses universitaires de France. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir à l'un ou l'autre sujet, Johan Chapoutot, ou moi je vais vous poser une question sur Éric Zemmour qu'on entendait sur ce premier grand meeting de campagne. Sauver la France, sauver les littératures, sauver le peuple. Ce déclinisme, c'est une marque de fabrique de l'extrême droite?
Là, il y a deux choses, en fait, hein, dans l'extrait qu'on a entendu. Il y a le déclinisme, mais c'est un déclinisme apocalyptique, hein, vraiment à tonalité apocalyptique. Pour ce qui est du déclinisme, ça, c'est une vieille spécialité française, rien de nouveau sous le soleil. Depuis la Révolution française, les contre-révolutionnaires, l'extrême droite, a développé cette idée d'une descente aux enfers, hein, de la France qui ne serait plus elle-même et le serait d'autant moins que la République s'impose à la fin du 19e siècle, etc. C'est un vieux discours, une vieille rengaine très connu. Là, ce qui est frappant ici, c'est le ton apocalyptique de ce discours-là, qui là, pour le coup, va au-delà de l'extrême droite française traditionnelle, et qui est proprement le signe du fascisme, très clairement.
Il y a aussi une violence des mots, et on va écouter un autre extrait de ce meeting d'Éric Zemmour, dans lequel il parle du président Macron.
En 2022, ce n'est pas seulement la personne d'Emmanuel Macron que nous allons vaincre, mais mieux, son idéologie, ce système dont il est le porte-drapeau, le porte-parole et l'exécutant. Derrière le masque de la parfaite intelligence technocratique, derrière les slogans contradictoires, derrière le « en même temps », synonyme de désordre, et le « quoi qu'il en coûte », synonyme de ruine, il n'y a personne, il n'y a rien. Macron a vidé de leur substance notre économie, notre identité, notre culture, notre liberté, notre énergie, nos espoirs, nos existences. Il a tout vidé parce qu'il est à lui tout seul le grand vide, le gouffre. En 2017, la France a élu le néant et elle est tombée dedans. Nous laisserons dans sa vitrine ce mannequin de plastique, cet automate qui erre dans un labyrinthe de miroirs, ce masque sans visage qui défigure le nôtre. Nous laisserons cet adolescent se chercher éternellement.
Johan Chapoutot.
Là, on quitte très clairement l'ordre ou le régime ou le registre du discours politique pour rentrer dans le glapissement psychiatrique. Là, c'est véritablement un cri de douleur d'une personnalité visiblement complexe et compliquée. Je pense qu'il doit être très difficile de vivre dans la tête de ce monsieur pour... Et de fait, la scène politique lui sert d'exutoire, voire de vomitoire, hein, assez complexe, psychologique, assez lourd, mais qui de fait parle à un public. Les grands orateurs fascistes étaient des gens qui visiblement avaient eux aussi quitté le registre du discours politique rationnel pour entrer dans une espèce de pantomime glapissante qui de fait parlait à leur public parce que ils épousaient la douleur, les complexes, le ressentiment, la frustration et la rage de leur public. Donc là, on est vraiment à ce niveau-là.
Alors cette semaine, Emmanuel Macron s'est rendu à Vichy, c'est sans doute pas un hasard, il a répondu indirectement, on va dire, à Éric Zemmour sans jamais le citer. Il l'a fait hier lors de sa conférence de presse consacrée à l'Europe. Il l'avait fait deux jours plus tôt sur l'antenne de nos confrères de France Bleu, Pays d'Auvergne. On l'écoute.
L'histoire, nous gagnons à la respecter, à l'apprendre, à permettre à nos historiennes et nos historiens, sur la base de traces, de documents, de construire une vérité historiographique. Et gardons-nous de la manipuler, de l'agiter, de la revoir. Mais honorons celles et ceux qui se sont battus pour que nous puissions être un peuple libre et saluons le courage de ces 80 parlementaires qui, à Vichy, en effet, se sont opposés à ce qui était l'esprit de défaite et ont dit non.
Yoann Chapoutot, sur ce qu'a dit le président sur cette visite à Vichy.
Bon, ce sont des paroles d'apaisement, il est parfaitement dans son rôle, il défend le rôle, le travail des historiennes et des historiens. D'ailleurs, je sais bien qu'il en soit conscient, puisque les différents gouvernements, depuis 2017, ont tout fait pour augmenter les délais d'accès aux archives. Hein. Les historiennes et les historiens se sont battus, Raphaël Branche notamment, hein, pour pouvoir avoir accès aux archives contre les mesures administratives qui étaient prônées par ces différents gouvernements. Donc c'est bien de s'en rendre compte, c'est bien de l'acter, et il est parfaitement dans son rôle. Maintenant, le fait d'aller à Vichy, comme auparavant le fait en 2017 d'aller à Oradour-sur-Glane puis au Mémorial de la Shoah, bon, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu gros, même si en face, de fait, il y a une lourdeur d'artillerie rhétorique qui peut-être appelle des gestes un petit peu appuyés.
Alors dimanche, il y avait deux meetings, il y avait celui d'Éric Zemmour, celui de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais vous faire écouter juste la fin des deux discours, la différence entre les deux, entre Vive la République et Vive la France.
Vive la République et surtout
Vive la République, vive la France et surtout, vive la République, parce que sans elle, il n'y a pas de France possible.
Faut le rappeler ?
Oui, mais là, c'est paradigmatique cette opposition, parce que d'un côté, vous avez une conception essentialiste de la France, qui serait une ontologie comme cela, qui traverse l'histoire et peu importe le régime. Ça, c'est du côté de Zemmour, avec d'ailleurs l'arrière-plan qui est que quand la République s'éclipse, comme sous le régime de Vichy, c'est encore la France, et puis vive le maréchal Pétain, etc. Bon. Et de l'autre côté, vous avez une conception politique de ce que c'est que la France, c'est-à-dire un peuple souverain qui décide de prendre en main son destin en 1789, de s'auto-instituer souverain et qui construit un destin commun. La conception dite française de la nation et de la souveraineté populaire, voilà, là l'opposition est un cas d'école. Hein.
Alors on va rester à la défense parce que Jean-Luc Mélenchon, lors de son meeting, a dressé le tableau presque complet de cette présidentielle.
Les trois familles sont là, les partisans du grand affolement à cause du grand remplacement, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen, Monsieur Ciotti et quelques autres. Il y a les amis du grand démantèlement à cause du grand rendement qu'il faut opérer dans la société. Et puis, alors ça c'est Macron, Pécresse, vous faites la liste que vous voulez. Et puis, vous avez les partisans du grand changement à cause du grand épuisement des êtres humains et de la nature sous la pression du capitalisme financier qui est en train de détruire l'humanité, la biodiversité et la planète. Depuis hier, nous avons enfin un tableau complet puisque Madame Pécresse a surmonté et dominé ses quatre mauvais compères et elle a dit d'elle-même qu'elle était un tiers Thatcher, deux tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon.
Yoann Chapoutot, il y a pas mal de choses à dire sur ce discours de Jean-Luc Mélenchon. C'est un orateur.
Oui, c'est un orateur, c'est un prof, c'est un hussard noir de la République, c'est quelqu'un qui est nourri de culture historique, ça se voit, ça se sent. Bon, sur le tableau qu'il brosse, alors indépendamment de la valence politique de son discours, au fond, il dit des choses qui sont un petit peu désormais le sens commun hein, des scientifiques, des universitaires, que ce soit dans les sciences de la nature et du vivant ou dans les sciences humaines et sociales, hein, sur l'épuisement de la planète, sur cette course au rendement néolibéral qui...
Ça peut être un nouveau récit.
Oui. qui d'ailleurs se met en place peu à peu. Mais cela dit, je constate en historien les épuisements des grands récits, sans aucune nostalgie et sans aucun désir de revenir en arrière, hein, au contraire, puisque les grands récits auxquels on a assisté au cours de l'histoire n'ont pas été très fructueux, hein, ont été la matrice de crimes abominables. La multiplication des petits récits par l'intelligence critique de chacune et chacun d'entre nous qui, dans notre coin, lisons, travaillons, pensons, réfléchissons, parfois de manière un petit peu forcée, hein, par les événements. Voyez le premier confinement, voyez l'explosion de la librairie, hein, du commerce du livre à partir du premier confinement. Nos contemporains se sont retrouvés face à eux-mêmes, au sens de leur vie, puisque les activités auxquelles ils se livraient frénétiquement, du jour au lendemain, comme ça, ont été suspendues. On en a vu la superfluité, on en a pris conscience de cette superfluité, et on s'est posé des questions sur nous-mêmes, sur notre inscription dans le temps, dans le monde, et tout cela est au fond très positif.
Et on n'a pas fini de se poser des questions à ce sujet. À propos de un tiers Thatcher, deux tiers Merkel dont parlait, ça, c'est Valérie Pécresse, hein, qui se présente de cette façon-là. On va dire un petit mot d'Angela Merkel, parce que elle vient de partir de la chancellerie, c'est pas rien, 16 années passées, c'est énorme. Vous, le spécialiste de l'Allemagne.
Oui, on a été frappé par les images, hein, je trouve, cette semaine, de la passation de pouvoir au nouveau chancelier Olaf Scholz. La dignité, la hauteur de vue, la tempérance avec laquelle Madame Merkel est partie. Nous sommes en Allemagne dans une démocratie parlementaire, c'est-à-dire dans une vraie démocratie. N'oublions pas que c'est le Parlement, hein, qui élit le chancelier, c'est le Parlement qui commande aux armées, c'est le Parlement qui exerce les pouvoirs exceptionnels le cas échéant, alors qu'en France, on a une pseudo-démocratie ultra-présidentielle, parfaitement immature, totalement infantile, qui suscite ce que un de mes collègues à la Sorbonne appelle très justement l'appel aux dingues, hein, puisqu'il faut vraiment être dingue pour vouloir ce genre de poste, et puis exercer des pouvoirs aussi jupitériens, paraît-il. C'est totalement immature, et ce n'est pas digne d'un peuple cultivé comme le peuple français. En tout cas, les Allemands ont prouvé, depuis 1949, la stabilité, la solidité d'une démocratie parlementaire. Je ne vois pas pourquoi, puisqu'on parle de modèle allemand tout le temps, hein, pourquoi on n'adopterait pas précisément ce modèle allemand-là, dont on a vu tous les bénéfices et toute la dignité, encore une fois, dans le départ de Madame Merkel.
Vous dites quelque chose de très beau dans votre livre à propos de la langue allemande et du fait d'écouter l'autre. Vous dites en allemand, on écoute l'autre, on est bien obligé, car la syntaxe de la phrase y oblige. Et forcément, ça ne produit pas la même réalité. Oui. Et c'est ça qui conduit à négocier, à s'écouter pendant des semaines, et même plus de 2 mois pour former un gouvernement ?
Oui, ça c'est le philosophe et philologue Heinz Wissmann qui le remarque, hein, la place du verbe à la fin de la phrase fait qu'on est obligé d'écouter l'autre au lieu de l'interrompre. Mais alors effectivement, il y a une structure grammaticale, mais il y a aussi des institutions parlementaires qui effectivement obligent au compromis. Alors peut-être que l'Allemagne démontre la véracité de ce que Churchill disait à propos de la démocratie, hein, que la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Pourquoi ? Parce que de fait, la démocratie c'est difficile, c'est exigeant. C'est compliqué, ça demande d'être cultivé, ça demande de savoir lire, de savoir débattre, de penser le bien commun, d'aimer payer ses impôts, par exemple, toutes choses qui sont, on va dire, contre-intuitives. Penser le bien commun, penser l'intérêt général, et je trouve que la démocratie parlementaire allemande y parvient de manière assez exemplaire, même si elle a ses limites, ses travers, ses défauts, mais en tout cas, ce n'est pas du tout cette espèce de théâtre de narcissisme, hein, que l'on voit en France depuis 1958. N'oublions pas que la Constitution de 1958, elle a été élaborée en temps de guerre. C'est une constitution d'exception en temps de guerre pour un général. Alors, le général n'est plus là, la guerre est terminée, l'exception a cédé la place au droit commun. Essayons de penser les choses en termes d'institution.
Alors, ce qui est intéressant dans le grand récit, dans votre livre, c'est que vous revenez sur beaucoup de choses. Vous êtes spécialiste de l'Allemagne, vous revenez évidemment sur le nazisme et sur l'héritage du nazisme. On sait que vous avez écrit en 2020 « Libre d'obéir », un livre sur le management, hérité de la période nazie. Alors on va en dire un mot, Yoann Chapoutot, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable. Moi j'ai découvert ça, je ne connaissais pas cette histoire. C'est un des dignitaires du régime nazi qui est allé monter une école de management en Allemagne et qui, d'après vous, a posé les jalons du management d'aujourd'hui.
Alors, moi aussi, j'étais surpris quand, il y a une dizaine d'années, j'avais appris cette histoire. En l'occurrence, il s'agit d'un général de la SS, qui était une des têtes pensantes hein, du Troisième Reich, quelqu'un de très haut placé, quelqu'un qui pensait d'ailleurs l'expansion à l'Est, la dilatation des structures administratives pour administrer et diriger un grand empire, et qui pensait également une théorie des agences hein, pour remplacer l'État, hein, puisque les nazis étaient des anti-étatistes convaincus, contrairement à ce que l'on croit. Et après la guerre, ce général de la SS est devenu un penseur majeur du management, a fondé une école de commerce qui est la plus grande école de commerce de management d'Allemagne de l'Ouest, qui a disparu récemment. Et il se trouve que 700 000 cadres ont été formés dans cette école depuis 1956, depuis sa création en 1956. Et donc.
Et vous pensez que ça a débordé les frontières?
Assez peu, parce que de fait il y a une forme de ça s'est diffusé dans l'espace germanique hein, en Autriche et en Suisse alémanique. Ensuite ça a été contesté à partir des années 70 pour des raisons internes de théorie managériale, mais de fait lorsque il a fêté son 95e anniversaire en l'an 2000, le MEDEF allemand hein, le BDI a acclamé, je cite, ce pape du management, et c'est ainsi qu'il a été célébré dans les nécrologies lors de sa mort à l'âge de 95 ans quelques mois après. Donc là, on voit l'ombre portée et cette espèce de force d'inertie, hein, de non seulement des élites, mais également des idées hein, du Troisième Reich, puisque ce phénomène nazi, qui venait de loin, hein, ne s'est pas dispersé comme ça par magie en 1945.
On parlait d'Angela Merkel il y a quelques instants, Johann Chapoutot. Son successeur Olaf Scholz était à Paris aujourd'hui. Il a été officiellement désigné cette semaine pour lui succéder à la chancellerie. Angela Merkel, elle a choisi pour sa cérémonie d'adieu la semaine dernière une chanson de Nina Hagen interprétée par une formation militaire. Une chanson qui date de l'époque où Nina Hagen, originaire d'Allemagne de l'Est, n'était pas encore dans sa période punk. Du hast den Farbfilm vergessen.
Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat
Wie schön.
Du hast den Farbfilm vergessen, une chanson de Nina Hagen choisie par Angela Merkel pour son départ de la chancellerie et qui atterrit ce soir sur France Inter avec la complicité de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
C'est vrai que c'était improbable de passer ça sur notre antenne ce soir, Johann Chupacto. C'est une chanson importante.
Ah oui, c'est formidable parce que c'était un tube d'Allemagne de l'Est, hein, des années 70. Et c'est très émouvant que Angela Merkel, qui vient d'Allemagne de l'Est, ait choisi précisément cette chanson-là, qui évoque ce que les anciens Allemands de l'Est appellent unsere kleine Republik, notre petite république, qui n'était pas que barbelé, Stasi et mur de Berlin, mais qui était aussi ce dont Nina Hagen parle dans cette chanson, c'est-à-dire les vacances sur la Ostsee, c'est-à-dire sur la Baltique. Les grandes plages, le naturisme, etc. Et ça, c'est un folklore qui auquel les Allemands de l'Est restent attachés. Alors, c'était très intéressant de voir, lors de la cérémonie très solennelle, hein, d'honneur militaire à Angela Merkel, il y a une semaine d'ailleurs.
Le 2 décembre, oui.
Voilà, de voir le Stabsmusikkorps, hein, c'est-à-dire le corps de la musique de la garde du ministère de la Défense, jouer cette chanson assez subversive, au fond, hein, dans une cérémonie nocturne, au flambeau, enfin, comme les Allemands savent le faire, puisque chaque mise de défense ou chancelier part avec ce qu'on appelle la grosse Zapfenstreich, cette grande cérémonie militaire nocturne au flambeau.
Alors on va tenter maintenant de comprendre comment le petit Johann, né en juillet 78 à Martigues, est devenu un des plus grands spécialistes de l'Allemagne et notamment de l'Allemagne nazie. C'est vrai que c'était pas écrit d'avance cette affaire. Il y a quelques pistes dans votre livre, Johann Chapoutot, notamment quand vous parlez de vos grands-parents. Hein, vous écrivez « J'ai une grande tendresse pour les années 30. Elles furent celles de la jeunesse de mes grands-parents. Quand j'étais petit, j'étais ému par un vieil objet ou une vieille photo. » Vous avez un côté comme ça, empathie pour les temps anciens et puis pour les personnes âgées.
Ah mais je suis persuadé qu'on devient historienne ou historien parce qu'on a eu des grands-parents. Ça c'est certain, avoir la chance de pouvoir dialoguer avec des gens qui ont plus d'expérience, qui ont des récits d'ailleurs aussi et qui incarnent une forme de fragilité, de vulnérabilité. C'est très très émouvant. On devient historien parce qu'on a eu des grands-parents ou parce qu'on n'en a pas eu. Hein. Je fais référence au titre du très beau livre, très belle enquête d'Ivan Jablanka, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Moi j'ai eu la chance d'en avoir, de pouvoir discuter, dialoguer avec eux et ils m'ont introduit à cette dimension, ce sixième sens au fond qui est la dimension temporelle, la notion du temps, hein, cette intuition métaphysique que ce qui est là peut ne plus l'être et ce qui n'est plus là en fait l'est encore.
L'école a joué un rôle important également, on dira jamais assez le rôle que peuvent avoir certains enseignants, parfois déterminants pour vous, ça a été le cas alors que vous étiez en ZEP à Martigues.
Oui, c'est ça, dans un collège qui n'était pas véritablement un collège d'élite, hein, à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, mais on avait la chance d'avoir des enseignants comme il y en a des centaines de milliers en France, c'est-à-dire dévoués, des hussards de la République, des personnes qui croient à la culture, à l'émancipation par la lecture, par l'écriture, par le sens critique. Moi, j'avais une prof de français.
Par des voyages à l'étranger, même.
Par des voyages scolaires en Allemagne, notamment, ouais. Hein, en cinquième, en troisième, grâce à une formidable prof d'allemand. Et puis, effectivement, j'avais une grand-mère maternelle qui était professeure de mathématiques et qui, un jour, un petit peu interloquée par le fait que j'avais des notes absolument lamentables en classe, m'a dit, écoute, viens, on va faire des développements et des factorisations, on va faire quelques fractions et quelques équations. Et puis là, tac, ça a été le déclic, et je me suis mis à travailler.
Alors, et vous êtes devenu super bon en maths, mais au moment de l'orientation, vous avez choisi la filière littéraire au grand dam, justement, de votre famille.
Et puis surtout des enseignants, parce qu'il y a toujours cette axiologie, hein, cette hiérarchie entre, d'un côté, alors, qui est nouvelle, hein, puisque avant les années 60 et avant 1945, c'était le littéraire qui était ultra dominant, il fallait faire français, latin, grec, et tout ce qui était scientifique et technique, n'en parlons pas, était dévalorisé. Ensuite, ça s'est retourné après 1945, pour des raisons, on va dire, macro-structurelles, hein, de civilisation, il fallait former des ingénieurs, des techniciens, etc. Et le littéraire a été dévalorisé. Cela dit, moi, je voulais véritablement faire des lettres, faire l'histoire, faire la philosophie, tout en continuant à faire des mathématiques. Et d'ailleurs, j'ai continué à en faire pour mon grand bonheur.
Alors comment êtes-vous arrivé à Paris? C'est un de vos profs qui vous a présenté au concours général d'histoire?
Alors non, c'est moi qui ai pris la décision.
C'est vous qui avez pris cette décision?
J'avais entendu parler de ça et je m'étais dit que j'allais passer le concours général. Je l'ai passé en plusieurs matières. J'ai eu la chance d'être primé dans deux matières, en l'occurrence en histoire et en allemand. Et puis après le baccalauréat, je suis parti en classe préparatoire à Paris, au lycée Henri IV.
Et puis vous avez fait Normale Sup. Mmh. Agrégation d'histoire, Sciences Po, enfin le CV est impressionnant. Vous continuez de dire, Yoann Chapoutot, que l'histoire, c'est aussi la littérature, c'est aussi la sociologie, c'est aussi la philosophie, et on le sent dans ce livre-là, il n'y a pas de frontière étanche chez vous.
Non, Blaise Pascal disait de l'univers que son centre est partout et sa circonférence nulle part. C'est un peu vrai également de l'histoire, parce que faire de l'histoire, au fond, c'est essayer d'épouser non pas seulement le passé, mais l'homme en tant qu'il est dans le temps, hein, l'homme qui vit le temps et qui essaie de le comprendre d'ailleurs. Et tout cela, ça requiert d'être juriste, économiste, littéraire, philosophe, historien de l'art, linguiste. Et c'est formidablement stimulant de faire l'histoire. On a généralement une idée assez morose de l'histoire, hein, un apprentissage psittacique, par cœur, etc., de chronologie. Or, l'histoire, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que des dates, c'est des mots, c'est un langage, c'est entrer dans le langage d'une période pour en déployer l'univers mental. C'est formidablement stimulant intellectuellement et très intéressant. Et en fait, c'est une joie de faire l'histoire et d'être armé aussi en tant qu'historien pour lire notre monde contemporain.
Et pour enseigner aussi, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de la transmission du savoir historique ? C'est quelque chose de fondamental ?
Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que être professeur d'histoire à l'université, c'est un privilège et c'est un honneur. Et c'est aussi une chance parce que moi, je suis très impressionné par nos étudiants. Vu ce qu'ils traversent depuis quelques années, vu ce à quoi ils sont soumis, c'est-à-dire des politiques néolibérales qui font baisser les APL, qui font baisser les aides sociales, qui font baisser le nombre de postes à l'université au moment où explosent les effectifs, vu les restrictions liées à la pandémie, au confinement, à cette vie sociale qui leur refusé depuis 2 ans, vu également le contexte général hein, qui est rythmé par ce qu'on évoquait et puis par la catastrophe géoclimatique, eh bien je trouve que ce sont des jeunes gens vraiment impressionnants de lucidité, de sérénité, d'engagement, de calme et d'intelligence. Véritablement, moi, mes étudiants m'impressionnent.
Voilà, vos étudiants sont à la Sorbonne, hein, c'est là que vous enseignez. Il y a donc le grand récit aux presses universitaires de France, et puis il y a les 100 mots de l'histoire. C'est un que sais-je, et c'est assez plaisant, hein, parce que vous énumérez, vous prenez un certain nombre de mots. Histoire, je lis. Pratique de l'esprit humain qui donne lieu à une multitude de définitions plaisantes, cyniques ou navrées. C'est charmant. Avenir, le passé, et c'est parfois heureux, n'est pas aussi dépassé que les teintes sépia ou le noir et blanc le suggèrent. C'est presque poétique, votre que sais-je, Yoann Chapoutot ?
Encore une fois, l'écriture de l'histoire, c'est une écriture littéraire qui mobilise l'empathie, qui mobilise l'imagination, qui mobilise également l'humour. Hein, c'est un ressort et une vertu aussi, l'humour, quand on fait l'histoire. Et on va pas s'interdire de pratiquer toutes ces choses-là.
C'est assez savoureux, effectivement, de voir qu'un livre sur l'histoire commence sur le mot histoire, commence par avenir et finisse sur vie. Hein. Ça, c'est certainement pas un hasard. Yoann Chapoutot, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses parce que vous vous occupez évidemment des rendez-vous de l'histoire de Blois, vous vous occupez du camp du Struthof. On vous remercie 1000 fois d'être venu ce soir sur France Inter. Je rappelle le nom de vos deux ouvrages. Les 100 mots de l'histoire, c'est un que sais-je aux presses universitaires de France. Il y a également le grand récit. Il y a quoi, 360 pages. C'est très vaste et ça ne concerne pas que l'Allemagne nazie parce que cette fois vous en éloignez et vous parlez de bien d'autres sujets. Un très grand merci à vous.